Vous écoutez Des femmes et un Dieu, le podcast où des femmes chrétiennes parlent de leurs expériences de foi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça fait un petit bout de temps qu'il n'y a pas eu d'épisode, de nouvel épisode du podcast sur Des femmes et un Dieu. Et il y a une bonne raison à cela, c'est que je suis débordée par mes activités annexes, dont je vous parlerai peut-être plus en détail dans un autre épisode. Et je n'arrive pas à trouver le temps et l'énergie de monter les entretiens de femmes qui restent à diffuser pour la saison 3. Donc j'ai décidé d'accepter cette réalité et de vous donner à entendre des épisodes sur un format court, de lecture de textes de femmes. J'ai donc choisi de vous faire entendre des textes de Madeleine Delbrel et pour ce premier épisode, un chapitre de Nous autres, Jean des Rues. Pour en savoir plus sur la vie et sur les engagements de Madeleine Delbrel, je vous renvoie à l'épisode 8 de la saison 1 où je lui avais consacré une chronique et je vous laisse à votre écoute. À bientôt! Il y a des gens que Dieu prend et met à part. Il y en a d'autres qu'il laisse dans la masse, qu'il ne retire pas du monde. Ce sont des gens qui font un travail ordinaire, qui ont un foyer ordinaire ou sont des célibataires ordinaires. Des gens qui ont des maladies ordinaires, des deuils ordinaires. Des gens qui ont une maison ordinaire, des vêtements ordinaires. Ce sont les gens de la vie ordinaire, les gens que l'on rencontre dans n'importe quelle rue. Ils aiment leurs portes qui s'ouvrent sur la rue, comme leurs frères invisibles au monde aiment la porte qui s'est refermée définitivement sur eux. Nous autres, gens de la rue, croyons de toutes nos forces que cette rue, que ce monde où Dieu nous a mis, est pour nous le lieu de notre sainteté. Nous croyons que rien de nécessaire ne nous y manque, car si ce nécessaire nous manquait, Dieu nous l'aurait déjà donné. Le silence ne nous manque pas, car nous l'avons. Le jour où il nous manque, c'est que nous n'avons pas su le prendre. Tous les bruits qui nous entourent font beaucoup moins de tapage que nous-mêmes. Le vrai bruit, c'est l'écho que les choses ont en nous. Ce n'est pas de parler qui rompt forcément le silence. Le silence est la place de la parole de Dieu, et si, lorsque nous parlons, nous nous bornons à répéter cette parole, nous ne cessons pas de nous taire. Les monastères apparaissent comme les lieux de la louange et comme les lieux du silence nécessaire à la louange. Dans la rue, pressés dans la foule, nous établissons nos âmes comme autant de creux de silence où la parole de Dieu peut se reposer et retentir. Dans certaines multitudes où la haine, la convoitise, l'alcool marquent le péché, nous connaissons ce silence de désert et notre cœur se recueille avec une facilité extrême pour que Dieu y résonne son nom. Vox clamans in deserto, la voix criant dans le désert. À nous autres gens de la rue, il semble que la solitude n'est pas l'absence du monde, mais la présence de Dieu. C'est de le rencontrer partout qui fait notre solitude. Être vraiment seul, c'est, pour nous, participer à la solitude de Dieu. Il est si grand qu'il ne laisse place à nul autre sinon en lui. Le monde entier nous est comme un face-à-face avec lui dont nous ne pouvons nous évader. Rencontre de sa causalité vivante dans ses carrefours trépidants de mouvements, rencontre de son empreinte sur la terre, rencontre de sa providence dans les lois scientifiques, rencontre du Christ dans tous ses petits qui sont à lui. Ceux qui souffrent dans leur corps, ceux qui s'ennuient, ceux qui s'inquiètent, ceux qui manquent de quelque chose. Rencontre du Christ rejeté dans le péché aux mille visages. Comment aurions-nous le cœur de les moquer ou de les haïr, ces multiples pécheurs que nous côtoyons? Solitude de Dieu dans la charité fraternelle, le Christ servant le Christ dans celui qui sert, le Christ dans celui qui est servi. Comment l'apostolat serait-il pour nous une dissipation ou un tapage? Nous autres, gens de la rue, nous savons très bien que tant que notre volonté sera vivante, nous ne pourrons pas aimer pour de bon le Christ. Nous savons que seule l'obéissance pourra nous établir dans cette mort. Nous envierons nos frères religieux si nous ne pouvions, nous aussi, mourir un peu plus à chaque minute. Les menues circonstances sont des supérieures fidèles. Elles ne nous laissent pas un instant et les oui que nous devons leur dire succèdent les uns aux autres. Quand on se livre à elles sans résistance, on se trouve merveilleusement libéré de soi-même. On flotte dans la providence comme un bouchon de liège dans l'eau. Et ne faisons pas les fiers. Dieu ne confie rien à l'aventure. Les pulsations de notre vie sont immenses, car il les a toutes voulues. Dès le réveil, elles nous saisissent. C'est la sonnerie du téléphone, c'est la clé qui tourne mal, c'est l'autobus qui n'arrive pas, qui est complet ou qui ne nous attend pas. C'est notre voisin de banquette qui tient toute la place, ou la glace qui vibre à nous casser la tête. C'est l'engrenage de la journée, telle démarche qui en appelle une autre, tel travail que nous n'aurions pas choisi. C'est le temps et ses variations exquises parce que absolument pures de toute volonté humaine. C'est avoir froid ou c'est avoir chaud, c'est la migraine et c'est le mal aux dents. Ce sont les gens que l'on rencontre, ce sont les conversations que nos interlocuteurs choisissent. C'est le monsieur mal élevé qui nous bouscule sur le trottoir, ce sont les gens qui ont envie de perdre du temps et qui nous happent. L'obéissance pour nous, gens de la rue, c'est encore de nous plier aux manies de notre époque quand elles sont sans malice. C'est d'avoir le costume de tout le monde, les habitudes de tout le monde, le langage de tout le monde. C'est, lorsque l'on vit à plusieurs, d'oublier d'avoir un goût et de laisser les choses à la place que les autres leur donnent. La vie devient ainsi une sorte de grand film au ralenti. Elle ne nous donne pas le vertige, elle ne nous essouffle pas. Elle nous ronge petit à petit, fibre par fibre, la trame du vieil homme qui n'est pas raccommodable et qu'il faut totalement renouveler. Quand nous nous sommes accoutumés à livrer ainsi notre volonté au gré de tant de minuscules choses, nous ne trouvons pas plus difficile, quand l'occasion s'en présente, de faire la volonté de notre chef de service, de notre mari ou de nos parents. Et nous espérons bien que la mort même sera facile. Elle ne sera pas une grande chose, mais une suite de petites souffrances ordinaires, l'une après l'autre consenties. Nous autres, gens de la rue, sommes bien sûrs que nous pouvons aimer Dieu autant qu'il a envie d'être aimé de nous. Nous ne pensons pas que l'amour soit chose brillante, mais chose consumante. Nous pensons que faire de toutes petites choses pour Dieu nous le fait autant aimer que de faire de grandes actions. D'ailleurs, nous pensons être fort mal informés sur la taille de nos actes. Nous ne savons que deux choses. La première, que tout ce que nous faisons ne peut être que petit. La seconde, c'est que tout ce que Dieu fait est grand. Cela nous rend tranquille devant l'action. Nous savons que tout notre travail consiste à ne pas gesticuler sous la grâce, à ne pas choisir les choses à faire et que c'est Dieu qui agira par nous. Il n'y a rien de difficile pour Dieu et celui qui craint la difficulté se croit capable d'agir. Parce que nous trouvons dans l'amour une occupation suffisante, nous n'avons pas pris le temps de classer les actes en prière et en action. Nous trouvons que la prière est une action et que l'action est une prière. Il nous semble que l'action vraiment amoureuse est toute pleine de lumière. Il nous semble que devant elle, l'âme est comme une nuit tout attentive à la lumière qui va venir. Et quand la lumière est là, la volonté de Dieu clairement comprise, elle la vit tout doucement, tout posément, regardant son Dieu s'animer et agir en elle. Il nous semble que l'action est aussi une prière implorative. Il ne nous semble pas que l'action nous cloue sur notre terrain de travail, d'apostolat ou de vie. Bien au contraire, il nous paraît que l'action parfaitement accomplie là où elle est réclamée de nous, nous greffe sur toute l'Église, nous diffuse dans tout son corps, nous fait disponible en elle. Nos pas marchent dans une rue, mais notre cœur bat dans le monde entier. C'est pourquoi nos petits actes, dans lesquels nous ne savons distinguer entre action et prière, unissent aussi parfaitement l'amour de Dieu et l'amour de nos frères. Le fait de nous livrer à sa volonté nous livre du même coup à l'Église que cette même volonté fait constamment salvatrice et mère de grâce. Chaque acte docile nous fait recevoir pleinement Dieu et donner pleinement Dieu dans une grande liberté d'esprit. Alors, la vie est une fête. Chaque petite action est un événement immense où le paradis nous est donné, où nous pouvons donner le paradis. Qu'importe ce que nous avons à faire, un balai ou un stylo à tenir. Parler ou se taire, raccommoder ou faire une conférence, soigner un malade ou taper à la machine. Tout cela n'est que l'écorce de la réalité splendide, la rencontre de l'âme avec Dieu à chaque minute renouvelée, à chaque minute accrue en grâce, toujours plus belle pour son Dieu. On sonne ? Vite, allons ouvrir. C'est Dieu qui vient nous aimer. Un renseignement ? Le voici. C'est Dieu qui vient nous aimer. C'est l'heure de se mettre à table? Allons-y, c'est Dieu qui vient nous aimer. Laissons-le faire.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je serai heureuse d'avoir vos avis, réactions et commentaires sur la page Facebook Des femmes et un Dieu ou à l'adresse mail desfemmesetundieu@vivaldi.net.